Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Nouvelle série proposée par le docteur Dominique Desmichel et Simon Martin autour de l'intime. L'intime, ce qui est peut-être le plus secret en nous et que pourtant nous sommes prêts parfois à dévoiler, à offrir, pourvu que la personne en face de nous en vaille la peine et surtout qu'un véritable lien de confiance s'établisse. Pour explorer ce thème de l'intime, nous nous appuierons sur le dossier de la revue Archipel proposé par l'association JALMA, jusqu'à la mort accompagner la vie, mais aussi et surtout sur un mythe que vous connaissez très certainement et dont nous avons choisi des extraits pour illustrer notre thème et approfondir cette question de l'intime. Ce mythe, c'est celui d'Eros et Psyché, Eros ou Cupidon ou l'amour, comme bon vous semblera. Un roi avait trois filles, dont la plus jeune Psyché, était d'une telle beauté qu'elle était comparée à Vénus elle-même, qu'elle aurait égalée et même surpassée. Vénus, jalouse et furieuse de cette comparaison, chargea son fils Cupidon de lui faire aimer, en la frappant d'une de ses flèches, l'homme le plus laid de la terre. Mais la voyant, Cupidon en tomba amoureux et chargea Zéphyr, dieu du vent d'ouest, de l'emporter dans son palais enchanté. Nul être vivant n'y vivait, et c'est seulement la nuit, dans l'obscurité, que Cupidon la rejoignit dans sa couche, lui interdisant de le voir. S'ennuyant, seule dans ce palais, Psyché obtint de Cupidon de faire venir ses deux sœurs. Celles-ci persuadèrent leur sœur de passer outre à cet interdit et de voir si ce n'était pas un être monstrueux qui ne se manifestait que dans l'obscurité. Une nuit, Psyché alluma une lampe et, troublée par la beauté du jeune homme endormi, laissa tomber sur lui une goutte d'huile brûlante. Réveillé, Cupidon s'envola pour rejoindre sa mère, lui avouant sa trahison, laissant seule Psyché dans le palais. Désespérée, celle-ci rechercha partout son amant et finit par s'adresser à Vénus elle-même qui, tout à sa vengeance, la maintint en esclavage et lui imposa quatre épreuves, apparemment insurmontables. Mais des amis de Cupidon lui apportèrent leur aide, ainsi, des fourmis l'aidèrent à trier des graines mélangées entre elles. Devant rapporter la laine de moutons mangeurs d'hommes, un roseau lui conseilla de les tondre pendant leur sommeil. Un aigle puisa pour elle de l'eau du Styx, le fleuve de l'enfer. Pour en finir, Vénus lui intima l'ordre de descendre aux enfers pour lui rapporter un flacon contenant un onguent de beauté détenu par Proserpine, Perséphone. Persuadée qu'elle ne pourrait accomplir cette dernière épreuve, elle allait se jeter du haut d'une tour. Mais cette dernière lui donna de judicieux conseils, donner à Cerbère, le chien à trois têtes, gardien des enfers, à un gâteau imprégné de somnifères, de se munir de deux oboles pour payer à l'aller et au retour Charon, le passeur du fleuve Styx, et chez Proserpine de ne pas s'asseoir et de ne pas manger à défaut de rester éternellement en bas, et surtout de ne pas ouvrir le flacon que la déesse lui remettra. Mais sur le retour, désireuse d'essayer l'onguent de beauté destiné à Vénus, elle ouvrit le flacon et respirant la fumée mortelle qui s'en dégagea, elle en mourut. Cupidon, pardonné par sa mère, partit à sa recherche et la trouvant morte, la ressuscita avec une de ses flèches. Il l'emmena dans l'Olympe où Jupiter lui-même célébra leur union, dont naquit leur fille Volupté.
Thank you.
Docteur Dominique Lemichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors vous venez de l'entendre, ce mythe de Eros et Psyché que nous avons choisi ensemble pour illustrer ce thème de l'intime. Alors pour commencer, pourquoi ce choix Eros et Psyché et l'intime ? Est-ce que ça vous paraît très pertinent ? C'est vrai que je vous ai un peu forcé la main pour cette première émission.
Oui et non. Je pense que pour la question de l'intime, la question d'une thématique d'un côté et d'un mythe de l'autre, c'est une question qui peut vraiment être posée. Je crois qu'une grande partie des mythes grecs racontent l'histoire de l'humain, racontent l'histoire de la psyché, donc posent des questions importantes. On évoquait juste avant de commencer que dans le rapport, par exemple, au courage, on aurait pu prendre le personnage d'Hercule ou d'Héraclès, par exemple. C'est le même personnage. Suivant qu'on est chez les Latins ou chez les Grecs, on aurait pu, autour de la question de la mort, reprendre le thème d'Orphée et Eurydice, par exemple, et ainsi de suite. Alors, vous proposez de travailler deux choses. Premièrement, une histoire, et vous avez commencé par l'histoire, parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de commencer par une histoire qui est comme un conte de fées, un mythe, c'est pas la même chose les deux, mais il y a quelque chose qui se rejoint, en tout cas, d'une sorte de récit dans lequel il se passe quelque chose.
Mythe que nous reprendrons dans le détail au cours de toute cette série d'émissions. Là, ce n'était qu'un résumé, mais j'imagine, docteur Dominique Michel, qu'il y a plein d'éléments qui pourront nous être utiles.
Oui, je crois qu'il y en a plein. Et en vous écoutant raconter le résumé de cette histoire, parce qu'on va essayer peut-être de reprendre dans les détails, il y a plein de choses qui me venaient. Et puis l'autre partie, à côté de l'histoire de Psyché, Eros et Aphrodite, alors j'aurais envie de dire plutôt Psyché et Eros, parce que Cupidon voit un petit peu le petit personnage rondouillard avec son arc et ses flèches, et c'est pas trop ça, c'est un personnage qui a une vraie virilité, une vraie animalité, c'est quelque chose du côté du désir dans la pulsion. Mais on reviendra au personnage d'Eros. Il y a le personnage de Psyché, et il faut pas oublier le personnage d'Aphrodite, que vous avez, ou Vénus, Vénus c'est chez les Latins, Aphrodite chez les Grecs. On reprendra ce personnage parce qu'il est aussi très important.
Et les deux sœurs qui jouent un rôle primordial.
Et les deux sœurs qui sont très, 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 très importantes aussi. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire que tout à l'heure, j'ai employé le mot conte dessus, alors que c'est plutôt un mythe, et que les mythes et les contes, c'est pas la même chose. Mais ce mythe-là, il est un petit peu particulier parce que il se déroule d'une manière un petit peu étrange. La grande majorité des contes, par exemple, se terminent par un mariage. Là, ça commence par une sorte de mariage.
Et ça se termine bien. Pour un mythe, c'est étonnant aussi. Voilà. Généralement, les mythes se terminent de manière affreuse.
Exactement. La grande majorité des mythes sont absolument tragiques. Sauf de temps en temps, il y a une apothéose. C'est-à-dire, on se retrouve dans l'Olympe. Pour Héraclès, c'est ce qui va arriver. Héraclès, Hercule, est un personnage absolument horrible, insupportable, infréquentable. Personne, aucun des auditeurs n'en ferait un de ses amis, tellement il est terrifiant. Il n'arrête pas de faire des gaffes. Il tue tout le monde. Il mange ses enfants. Les ébouillantes, enfin quelque chose d'un peu terrible. Et vous avez raison, dans cette histoire, on sent bien qu'il y a quelque chose de tout à fait initiatique, puisqu'il y a un problème au début, mais à la fin, il y a une résolution avec l'idée du mariage éternel, puisque ça se passe dans l'Olympe, entre Eros et Psyché.
Alors pour ces émissions, docteur Dominique Michel, nous faisons le pari que Psyché va quelque part à la découverte de son intimité et surtout avec peut-être une manière de se réconcilier avec son intimité, son intériorité. Et ça va être ma première question parce que l'intime, il faudrait peut-être préciser le sens que nous mettrons derrière ce mot. Parce que moi, intime, j'entends aussi bien le moi psychologique, l'identité, l'intériorité. Qu'est-ce qu'on va entendre par intime ? À travers ce mythe et à travers nos émissions, docteur Dominique Demichel.
Ce que je crois, c'est que on va peut-être au fond découvrir ensemble, en discutant, quel lien on peut faire entre cette histoire, ce mythe d'Eros et Psyché, et puis l'intime. Alors, en effet, reprenons cette question de l'intime. L'intime, d'abord, je crois qu'on en a tous une certaine expérience, c'est-à-dire tout le monde est capable de dire, mais ça, c'est quelque chose qui m'est intime. Sous-entendu, je le garde en moi, je n'ai pas envie de le partager. Et en même temps, L'autre élément qui est tout à fait étrange, c'est qu'on parle d'amis intimes, par exemple. Hein. Donc les amis intimes, c'est un espace dans lequel il y a une forme de proximité, mais d'une proximité qui nous est intérieure, puisque l'étymologie du mot intime, c'est intimus, c'est-à-dire intérieur, ce qui est intérieur. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une dimension très charnelle, puisqu'on a tous nos parties intimes. Et les parties intimes, ça veut dire qu'aussi dans le corps, il y a quelque chose qui nous est particulièrement intérieur. Donc dans la psyché, hein, mon intimité, dans le champ social, mes amis intimes, et dans le corps, vous voyez, dans ces trois grands espaces dans lesquels nous circulons, on retrouve cette question de l'intime.
Est-ce qu'on peut dire que, enfin c'est une question, l'intime est-il un espace immobile qui ne bouge pas, on est avec et on meurt avec, ou justement quelque chose en mouvement qui va aussi évoluer, qui va aussi nous permettre d'évoluer?
Je pense que je vais employer un mot qui est un tout petit peu compliqué, mais que je pense on reprendra. À côté ou face à l'intime, il y a l'extime. Hein, c'est le contraire. In, c'est à l'intérieur et ex, c'est à l'extérieur. Donc, on va voir que l'intime, c'est quelque chose qui, d'abord et avant tout, ne se partage pas, mais paradoxalement, qui appelle à être partagé. C'est-à-dire, ça, ben non, j'en parlerai jamais à personne, mais je t'en parle à toi, au fond. Donc, on voit bien, par rapport à votre question, que dans la relation à soi-même, il y a quelque chose qui va évoluer dans notre rapport à l'histoire, mais que dans la relation à l'autre aussi, l'intime va changer. Et on sait très bien, par exemple, que de temps en temps, on peut avoir, je prends le champ social de l'amitié, par exemple, hein, on peut avoir un ami intime qu'on a eu pendant qu'on était enfant ou adolescent, on ne s'est pas vu pendant 20 ans, et quand on se retrouve, il peut y avoir deux possibilités. Le premier, c'est qu'on retrouve cette intimité et on se dit mais c'est comme si on ne s'était pas quitté et on revient comme il y a 20 ans. Et puis de temps en temps, on se retrouve et il n'y a plus d'intime qui est partageable. Et puis on se dit, après avoir discuté un quart d'heure ou deux heures, qu'on n'a plus rien à se dire. Voilà. Donc ça veut bien dire que probablement l'intime de chacun a changé et que l'intime commun qui avait pu être partagé à un certain moment n'existe plus. Il s'est, voilà. Donc il a bougé. Donc cet intime à l'intérieur de nous-mêmes, il bouge énormément. Il est le lieu de la rencontre avec ce qui nous est le plus précieux, il est le lieu de la rencontre, on le verra, avec le sacré, il est le lieu de la rencontre avec l'autre le plus précieux. Hein, puisque parmi les gens qu'on va choisir pour être nos intimes, ou qui nous choisissent pour être nos intimes, il y a quelque chose de l'ordre d'une grande valeur ajoutée.
Aspetto più, neanche se quando ritorni, ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più, è passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite. Ti aspetto più e vado via da qui, oltre questo ponte, un altro ponte e ancora un fiume e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto più. Oltre l'orizzonte un altro mare e ancora un mare e un altro amore ci sarà.
Docteur Dominique Michel, vous avez parlé à l'instant du corps et de l'âme qui forment l'intime. Et justement, j'aimerais que nous revenions à notre mythe d'Eros et Psyché. Parce que ce mythe commence... Alors moi, je vais m'appuyer sur une version d'Edith Hamilton. Ce mythe commence par un roi père de trois filles ravissantes. Déjà, on est sur du charnel, on est sur du physique. Et on sent que le drame de Psyché au départ... C'est que, là je cite Edith Hamilton, « La plus jeune Psyché surpassait si grandement ses sœurs en éclat qu'auprès d'elle, elle paraissait être une déesse friant avec de simples mortels. La renommée de sa beauté s'étendit sur toute la terre et de tous côtés. Les hommes se mettaient en route pour venir la contempler avec émerveillement et adoration et aussi pour lui rendre hommage comme si, en vérité, elle était une immortelle. »
Alors, j'ai un petit peu envie de réfléchir à cette question. Bon, on peut garder cette sorte d'image extrêmement à distance, et puis on peut essayer de se dire, ça veut dire quoi, au fond, dans la vie quotidienne ? Ben, je crois que dans la vie quotidienne, il y a des femmes comme ça qui sont d'une très très grande beauté. Et qu'au fond, il faut noter qu'il y a un roi et une reine... Ils ont trois filles, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui est nommée. Hein. Les autres, elles n'ont pas de nom. Voilà, elles vont être l'une des sœurs, puis ensuite, on va les revoir à la fin du conte ou du mythe, il va y avoir l'autre sœur. Mais la seule qui a une identité, c'est Psyché. Et Psyché, on entend bien psychisme, on entend bien âme, on entend bien quelque chose de cet ordre-là. Du coup, on a envie de se dire que, se poser la question, est-ce que finalement, il y a dans la vie courante des femmes, puisque là c'est l'histoire d'une femme, est-ce qu'il y a dans la vie courante des femmes qui ont une très très grande beauté comme ça ? Eh bien, je crois que ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, probablement, mais peut-être chacun dans notre vie, nous avons rencontré à un certain moment des femmes d'une très très grande beauté. Et ce qui est caractéristique dans l'histoire, dans le mythe d'Eros et Psyché, c'est que Psyché, au début, elle est extrêmement belle, tout le monde vient la voir, mais qu'en gros, personne ne lui fait la cour.
Oui, il y a l'espèce d'émerveillement voilà. Des personnes qui la regardent, et finalement, elle est presque prise pour une immortelle.
Une immortelle.
Une immortelle, personne ne songerait à poser sa vilaine patte dessus.
Exactement, exactement. Ou même juste à lui, sa vilaine patte dessus, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire, on pourrait dire, probablement, Psyché, elle est tellement belle qu'elle n'est même pas sexy. Vous voyez, il y a une espèce de beauté... tellement fascinante, tellement divine, enfin tellement immortelle, que finalement on se dit bah non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc on va pas lui faire la cour.
Parce que je rappelle que les trois filles sont ravissantes, hein. Oui, ces deux sœurs sont aussi ravissantes.
Voilà. Hein, mais ravissantes, c'est pas la même chose que d'être d'une très très grande beauté. Hein. Donc on voit bien que la première sœur puis la deuxième sœur vont se trouver un conjoint, avoir une histoire, enfin une histoire d'amour, voilà. Mais Psyché, non. Hein. Donc. Psyché, elle est là avec sa souffrance et j'ai envie de proposer à nos auditeurs de se représenter Psyché comme une femme d'une beauté absolument fabuleuse, mais qui serait tellement parfaite qu'elle en perdrait son humanité.
Vous voyez ? Alors, est-ce que ça peut se réduire à une image ? Ou justement, c'est tout ce qu'elle va dégager autour d'elle également. Je veux dire, est-ce que ça peut se réduire à une image de magazine en papier glacé ? On n'aura jamais cette impression-là. Ce n'est pas une beauté qui est uniquement plastique.
Oui et non. D'abord, j'aurais tendance à penser que les beautés même plastiques, elles dégagent quelque chose. Hein. On sait bien, par exemple, que parmi les grandes actrices que nous connaissons dans le monde, il y en a qui sont belles. Très belle, mais plutôt un peu froide et glaçante. Et puis il y en a d'autres qui sont très belles, mais qui, en tout cas pour nous hommes, viennent solliciter quelque chose de notre espace pulsionnel, de notre espace le plus érotique.
Hein. Une Ava Gardner contre une Marilyn Monroe, par exemple.
Voilà, exactement. On voit bien que la première, il y a quelque chose dans les faits, il y a pas un défaut, enfin, on a l'impression que tout ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on aurait envie de l'inviter à dîner ou de lui proposer de.
On aurait peur de se prendre une claque.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Ou même, ou même de ne pas oser ouvrir la bouche, de rien dire. Hein. Tandis que peut-être avec Marilyn Monroe, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher dans un espace de désir à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des difficultés à tenir ce désir, bien évidemment, mais voilà, il y a quelque chose. Donc, Psyché, elle est plutôt du côté d'Ava Gardner dans cet exemple-là. Et en tout cas, les hommes l'aperçoivent comme une immortelle, comme une déesse. C'est-à-dire, en gros, c'est pas pour nous. Et évidemment, c'est terrible pour elle.
Alors, deux questions, docteur Dominique de Michel, me viennent par rapport d'abord à notre thème de l'intime. Est-ce que l'intime, on commence donc par le découvrir par son reflet dans le miroir ? Est-ce que ça a une importance, hein, par l'aspect physique finalement ?
Je ne sais pas trop. Cette question de cette identité dans le miroir renvoie plutôt ou à la reconnaissance de sa propre corporéité en tant qu'espace global, hein, c'est ce que Lacan a décrit dans le stade du miroir, c'est-à-dire où l'enfant découvre la globalité de son corps et dit « tiens, au fond, je me contiens là-dedans, ou je suis contenu dans ce corps-là ». Et puis il y en a un autre qui renvoie à son propre narcissisme, c'est-à-dire son sentiment d'identité, ou un narcissisme primaire qui est très important pour avoir le sens et le lien avec sa propre identité, ou après, tous des mécanismes de projection sur l'autre, c'est-à-dire j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé, sous une forme naturelle pour nous tous, ou sous une forme terrible, comme dans, je sais pas, la marâtre dans l'histoire de Blanche-Neige, qui n'existe que si elle a sa cour, représentée ici par le miroir. Je reprends votre mot du miroir, mais au fond, c'est les autres qui n'arrêtent pas de lui dire, parce qu'elle le demande, « Oui, tu es la plus belle, oui, tu es la plus belle. » Et il y a des gens qui, on le sait bien autour de nous, sont en permanence en quête d'amour, pas pour qu'on leur dise qu'ils sont nécessairement les plus beaux, mais pour qu'on leur dise qu'on les aime et qu'ils ont besoin de ça. Donc, ils ont besoin de cette réassurance narcissique. Donc là, on est du côté du miroir. Là encore, un thème qu'on pourrait reprendre aussi avec le mythe de Narcisse et de la nymphe Écho. Hein, et Écho, c'est celle qui ne parle pas et qui n'est capable que de redire la dernière phrase de l'autre, hein, donc qui n'a pas sa propre identité. Alors que Narcisse, lui, il est celui qui se suffit à lui-même. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous repreniez ça parce que Psyché, elle n'arrive pas à trouver un homme, personne ne vient lui faire la cour. Et Narcisse, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il n'a pas de conjoint, qu'il soit d'ailleurs homme ou femme, parce que dans l'histoire de Narcisse, il y a les deux choses, et ça va mal se terminer, en tout cas pour Narcisse. Tandis que là, oui, ça va s'arranger.
Ma deuxième question porte de nouveau sur la beauté et sur cet aspect du texte disant que les gens qui la côtoyaient avaient l'impression qu'elle était du côté des immortels. Tout de suite, on sent une forme de transcendance dans la beauté.
Oui, je
pense.
Quelque
chose qui nous tire vers le haut, qui nous...
Oui. Bah, je... Oui, donc là, vous posez des questions sur la question de la beauté. J'allais dire, ça renvoie par exemple à ce qu'a écrit François Cheng, hein, où il dit il y a deux grandes énigmes dans notre monde, c'est la beauté et le mal. Hein. Voilà. Faut aller relire les textes de Cheng, qui sont, je crois, tout à fait déterminants, faciles à lire. Je dis ça pour nos auditeurs. Hein. Ça se lit lentement, mais c'est tout à fait accessible. Donc, dans la beauté, il y a quelque chose, en effet, du rapport à une transcendance, en tout cas. Hein.
En quoi est-ce lié à l'intime également ? Est-ce que l'intime, lui aussi, est ouvert sur une transcendance ou c'est quelque chose de vraiment très humain, très psychologique ?
Je pense qu'on va un peu peut-être vite là.
Un peu vite, hein. Bien sûr, mais nous y reviendrons.
Ouais, moi, je vous propose de revenir sur cette question de l'intime avec l'idée que l'intime, c'est d'abord quelque chose qu'on sent qui est à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, dans une sorte d'espace qui est clos, qui est fermé, qui est un petit peu accessible à nous-mêmes, mais pas tant que ça, hein, parce qu'on découvre souvent des parts de nous-mêmes au fur et à mesure de notre existence. C'est en tout cas pas public, on le manifeste peu. Hein. Souvent, quand les gens se mettent à pleurer, par exemple, ils ont le sentiment d'extimer leur intime, c'est-à-dire de dire quelque chose de leur intimité, et très souvent, il y a « excusez-moi ». Et au fond, le « excusez-moi », alors moi je réponds toujours « je vous excuse de quoi ?» Ben, de pleurer, mais je peux répondre, mais c'est pas problématique de pleurer ou d'avoir raconté. Mais en fait, Ce qui est problématique, c'est que celui qui se met à pleurer, il a dévoilé quelque chose de son intime. Voilà, hein. Et il l'a dévoilé de deux façons. D'une part, dans son récit et dans son vécu sensoriel. Et deuxièmement, il l'a mis à l'extérieur. Il a estimé son intime par ses larmes. Hein. Donc, l'intime, c'est ça. Et dans cet intime, ce qui me paraît être aussi important, et on va voir que peut-être tout à l'heure, je vais dire un peu exactement le contraire, mais que dans une première approche, dans l'intime, il n'y a pas de tiers. Il y a nous et puis nous. Il y a moi et moi et puis moi et puis moi, c'est tout. Et il n'y a pas, quand je dis de tiers, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui relève de notre essence. Ça n'est connu que de moi. Éventuellement, quelques petites parts de mon intime, je les ai partagées. Mais il n'y a pas d'expérience d'une radicale altérité. La seule altérité de l'intime, c'est que de temps en temps, je me dis, tiens, je découvre une part de moi-même qui était là à l'intérieur, que je ne connaissais pas. Et qui me révèle à moi-même.
Oui, donc il y a une expérience de la surprise également, alors.
Oui, je pense qu'il y a une expérience de la surprise. Cet intime nous est familier, voilà, on connaît cet intime, on sait qu'on a notre mémoire, voilà, qui est notre présent intérieur.
Mais on a à le découvrir peut-être plusieurs fois dans sa vie, on passe son temps à le découvrir.
Voilà, je pense qu'on passe son temps à le découvrir.
Et Psyché, pour revenir à notre mythe, ça va être un peu l'histoire de sa vie, alors, enfin en tout cas de ce mythe, de chercher à découvrir, se découvrir elle-même.
Voilà, alors je pense que dans Psyché, c'est l'idée de l'altérité, justement. C'est-à-dire qu'elle est dans quelque chose qui se tient en lui-même, c'est-à-dire elle a cette beauté pure, hein. Elle est comme une déesse, sauf que c'est pas une déesse, et il faut qu'elle fasse l'expérience d'un autre. Quoi. C'est comme si un homme pensait qu'il se suffisait à lui-même, Narcisse par exemple, puisqu'on l'a dit tout à l'heure.
Et on voit bien que ça ne fonctionne pas, oui, évidemment.
Psyché, pareil, elle est belle, tout le monde vient, alors c'est sur le pan entre guillemets narcissique, c'est parfait, hein, c'est lié à tout le monde. Sauf que avec qui on va au cinéma, avec qui on fait les courses, avec qui on part en vacances, avec qui on cause, avec qui on raconte ses petits boulots, ses petits soucis du travail, avec qui on réfléchit sur ses états d'âme. Quand on est cet absolu-là, il n'y a personne. Donc, c'est tragique. Et au fond, Psyché, elle est dans une solitude terrifiante.
Donc, l'intimité serait cet espace clos, mais qui, paradoxalement, demande à s'ouvrir par les autres.
Voilà. Donc, il y a ce double mouvement. À l'intérieur de l'intime, il y a quelque chose qui se tient. Hein, et c'est très, très important qu'il y ait un intime qui n'ait pas d'extime, au fond. Hein, c'est-à-dire qu'il soit...
Est-ce que c'est un intime originel, du coup, espèce de noyau qui, lui ne bouge pas ou il est toujours en mouvement également?
Je pense qu'il y a une partie de nous-mêmes, il y a un intime qui doit nous être tout à fait personnel, entièrement subjectif, mais que l'intime, il se construit d'abord et avant tout avec l'autre, hein, quand même, hein, globalement, il me semble. Voilà. Dans cette question de la place du sujet à l'intérieur de nous-mêmes, je crois que, en tout cas, une part importante de notre subjectivité, c'est-à-dire de notre conviction de sujet, est très ancrée dans cette intime. Au fond, il y aurait à l'intérieur de nous-mêmes une sorte d'intime qui serait la somme de notre propre histoire entre nous et nous-mêmes. Il y aurait un intime qui serait la somme de nos relations très intérieures avec les autres. Et puis, on va y revenir, vous l'avez déjà évoqué, il y a ce rapport de l'intime avec une sorte de totalité, et c'est la dimension aussi de la relation, je dirais, au sacré. Hein. La relation au sacré, ça se fait avant tout dans l'intime. Like the seed of the wheat
in an autumn wind. Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre cette série d'émissions sur l'intime. But not a pair in the usual sense, as you were mine.